Et donc, nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux événements de mai-juin 1968. Et pour en parler, nous sommes avec Ludivine Bantigny, autrice de 1968, de Grand Soir en Petit Matin, paru aux éditions du Seuil en 2018, ouvrage qui forme la trame donc de notre émission. Et donc, nous allons parler dans cette troisième partie. Pour commencer, de la troisième partie de ce livre qui s'intitule « L'expérience sensible du politique » et qui parle justement du rôle des affects, des sentiments, des émotions dans l'événement 68 et qui est une dimension souvent qui n'est pas trop évoquée par les historiens et les historiennes puisqu'évidemment c'est toujours quelque chose bon, qui ne transparaît pas forcément dans les rapports de police ou dans les archives officielles. Et d'autre part aussi parce que, comme vous le rappelez, les protagonistes sont eux-mêmes un peu rétifs justement à laisser transparaître ces émotions. Donc à part certains poètes ou certains graffitis, parce qu'il y a notamment voilà, une espèce d'éthos viril, guerrier, qui voilà, mobilise beaucoup la notion du sacrifice, de la révolution, et qui ne laisse pas tellement transparaître toute cette dimension sensible qui pourtant a été très importante en 68.
C'est vrai, donc sur ce que vous dites, sur une espèce de virilisme qui exigerait qu'on taise ses émotions, mais en même temps, on voit quand même qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, il y a aussi cette capacité à exprimer, parce que ce virilisme, on le voit par exemple dans les services d'ordre, les organisations syndicales ou politiques, puis dans les organisations politiques qui se revendiquent notamment la perspective révolutionnaire. C'est vrai qu'on n'est pas encore forcément très sensible justement à la question des émotions révolutionnaires, c'est beaucoup moins... Désormais, on s'y intéresse davantage et peut-être que 68 a été aussi un accélérateur de cette prise de conscience que la politique est aussi constituée d'affects et que même il ne s'agit pas d'opposer la raison aux émotions, la raison politique et les émotions sensibles. Pas du tout, puisque en fait, il y a une intelligence émotionnelle, donc le politique procède aussi d'impulsions qui sont émotionnelles, qui sont liées à des indignations, à des détestations, à des haines, à des formes aussi de joie. Et donc, c'est sûr que, bon, je pense que j'ai parlé là de que la joie demeure à propos de 68, un heureux événement aussi, parce que beaucoup expriment ce sentiment que plus rien ne sera jamais comme avant dans cette prise de parole aussi, la joie qu'il y a d'abord à arrêter l'ordinaire des choses et du temps, se sentir dans un temps beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, un temps vraiment au sens strict extraordinaire. Le philosophe Henri Lefebvre, dont on parlait tout à l'heure, a dit à ce moment-là « le temps ravivé scintille ». Voilà, le temps ravivé scintille, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un présent d'une extrême densité, mais aussi de faire l'histoire. Il y a une conscience historique, voilà. Il y a conscience qu'un événement est bien à l'œuvre. Et donc, dès lors, on s'appuie aussi beaucoup sur les expériences du passé. C'est ça aussi l'expérience sensible du politique, c'est essayer de faire revivre le passé, non pas à titre de référence figée, morte, à commémorer, mais vraiment comme des expériences qui restent vivantes. Hein. C'est le passé dans le présent. Par exemple, on se réfère beaucoup à la Commune de Paris. Et ça, c'est très exaltant, c'est enthousiasmant, l'idée qu'on va reprendre finalement le flambeau des morts. Il y a des formules comme ça chez Hugo, notamment que les morts continuent à être présents dans les luttes du présent. Justement, la présence des morts, c'est aussi très important. Et donc, se référer à la Commune, se référer au Front populaire, se référer à certains égards aussi à la résistance, ça crée cette joie-là. Mais qui n'est pas sans s'accompagner d'une anxiété aussi. C'est-à-dire, par exemple, on a conscience qu'il y a un événement tout à fait crucial qui dans cette irruption, dans ce surgissement, et il faut être à la hauteur de l'événement. Donc il peut y avoir aussi cette angoisse de voir passer le temps comme ça, le temps file, et chaque jour suppose de s'interroger sur ce qu'il faut faire, comment on peut surmonter chaque étape de cette grève générale, comment on peut ne pas perdre la main, comment on peut faire en sorte que le pouvoir ne la reprenne pas justement la main. Donc il y a ce mélange-là, et puis un mélange aussi lié au rapport femme-homme, parce que les femmes, par exemple, elles sont très présentes dans cette grève, participent aux piquets de grève. Il y a des endroits d'ailleurs où elles sont quasiment seules à faire grève, parce que c'est par exemple soit des usines où la main-d'œuvre est essentiellement féminine, je pense notamment à des usines textiles, ou alors des chèques postaux, des magasins, etc., des employés de bureaux. Et elles sont très présentes et en même temps. Cette parole se libère et elles intériorisent aussi le fait que pendant quand même des années, des décennies, voire des siècles, la parole des femmes n'était pas du tout légitime. Donc il y a aussi parfois cette angoisse, ou en tout cas cette inquiétude à prendre cette parole. Donc il y a ce mélange d'un sentiment de libération, d'émancipation, de sortie du métro-boulot-dodo, parce que c'est vraiment une formule de cette époque, hein, de la mécanique de la vie assez aliénante, de l'ordinaire de la vie, pour trouver des formes de vie différentes. Et ça, quand même, c'est aussi couplé à des inquiétudes sur la peur, alors pas la peur que vous évoquiez tout à l'heure du côté du pouvoir ou des tenants de l'ordre conservateur, mais non seulement la peur de ne pas être à la hauteur, mais aussi la peur physique, hein, parce que s'il y a quand même une violence qui est extrêmement intense, extrêmement aiguisée, alors comme le raconte Leslie Kaplan, à la fois ouvrière à cette époque et écrivaine, elle avait vu un jour sur un mur « Je n'ai plus peur ». Voilà. Donc se libérer aussi de ses peurs, tout ça n'est pas évident, mais ça rend le moment d'autant plus intense.
Oui, ça c'est effectivement un aspect intéressant, ce rapport au temps. C'est-à-dire qui est un rapport nouveau finalement au présent, au passé et au futur, un rapport au passé qui est plus simplement de l'ordre de la commémoration, mais finalement de la référence et presque l'idée que du prolongement et peut-être même que de la réalisation, hein, de l'imaginaire, de la commune. Enfin, la révolution est là et nous, on va la réaliser. C'est notamment vrai, par exemple, pour le cas de la commune. Il y a un nouveau rapport au présent, dans le sens où le présent n'est plus, comme disait Debord, une espèce de temps pseudo-cyclique. C'est-à-dire qui n'est pas cyclique au sens de le renouvellement des saisons chaque année, mais qui est pseudo-cyclique dans le sens où c'est toujours effectivement le cycle métro, boulot, dodo, et finalement une espèce de présent perpétuel, dont parle par exemple Jérôme Bachet, hein, dans un de ses derniers livres qui s'appelle justement, il me semble, « Défaire la tyrannie du présent » aux éditions La Découverte. Et il y a également un rapport différent au futur qui fait l'objet notamment de la quatrième partie de l'ouvrage, avec l'idée que tout est possible, que un monde radicalement nouveau est possible. Et c'est là l'importance de l'imaginaire et aussi de la revivification imaginaire qui était en perte de vitesse, notamment l'idée du communisme libertaire ou l'idée d'une société libérée de l'État ou l'idée d'une société qui serait intégralement autogérée, qui partirait de la base, où la décision politique et économique partirait de la base. Il y a ce nouveau rapport au futur avec toutefois quand même l'angoisse d'une part que vous avez mentionné de ne pas être à la hauteur des événements, et aussi l'angoisse d'une récupération finalement de ces imaginaires politiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans votre chapitre 13 qui s'appelle « Changer de base, autonomie, autogestion et émancipation ». C'est cette conscience, et qui, de mon point de vue, me semble, qui me parle beaucoup, notamment quand je pense à une brochure plus récente qui s'appelait Contre le mythe autogestionnaire, qui montrait les limites finalement de l'autogestion, et que parfois cette aspiration à l'autogestion avait constitué un frein à la révolution, puisque des ouvriers et des ouvrières se retrouvaient à arrêter finalement la révolution pour autogérer leurs usines dans un cadre qui restait capitaliste. Il y avait déjà cette peur finalement que même des mots d'ordre radicaux comme l'autogestion ou l'autonomie pourraient être finalement récupérés par le pouvoir. Et effectivement, dans une certaine lecture de mai 68, qui est peut-être excessivement pessimiste et un peu téléologique, il y a cette idée que finalement, et ça c'est l'idée de Boltanski et Schiapello, que finalement 68 a permis aussi, a fourni des thèmes de renouvellement du capitalisme. Une interprétation avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais disons qu'il y avait déjà quand même cette inquiétude de la part des protagonistes de 68 d'une possible récupération peut-être de l'imaginaire subversif qu'ils étaient en train de créer.
Oui, alors d'abord, il faut bien insister sur le fait que quand on parle d'imaginaire, et comme vous le faites, c'est bel et bien pour montrer qu'il s'agit de projets qui ne sont pas du tout conçus comme lunaires ou purement utopiques, si on ne prend pas le mot utopie dans son sérieux politique. Hein. Donc ce sont des imaginaires, mais qui partent vraiment du présent, qui partent vraiment de revendications immédiates et comment, justement, à la faveur de la grève, donc à la faveur de l'arrêt du travail, on peut essayer de réfléchir à une société différente, mais en partant de ce qu'on connaît. Et donc en partant de l'idée qu'une autre chose peut surgir, peut être l'émanation de ce qu'on connaît. Par exemple, quand on commence à se dire, bon, alors on veut augmenter les salaires, diminuer le temps de travail, etc. Mais pour ça, bah, le patronat, il ne va pas céder tout ça comme ça. Donc il faut exiger, par exemple, ce qu'on appelle beaucoup à cette époque le contrôle ouvrier, le droit de veto des salariés sur l'embauche, sur les licenciements, sur les conditions de travail. La question aussi de l'ouverture des livres de compte pour voir un petit peu bah, où va l'argent, comment il se distribue, comment se distribuent les richesses, les profits. Pareil pour la question de la levée du secret bancaire. Donc autant de propositions de dévoilement, en fait, hein, qui sont des propositions radicales au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elles vont à la racine même du système et elles posent en fait des questions sur la façon dont on pourrait justement l'envisager tout autrement, puisqu'elles posent la question du pouvoir. Et donc ça rejoint votre interrogation sur l'autogestion, parce que ça m'a beaucoup frappée, comme vous, de mesurer la lucidité des protagonistes de l'époque, qui, tout en parlant d'autogestion, pour certaines ou pour certains, se disent « attention, il y a un piège ». Il y a un piège. Si on dit autonomie des universités, mais si on n'est pas dans une grande prudence par rapport à ce que peut être ce projet d'autonomie des universités, parce que déjà, certains patrons pourraient tout à fait s'y reconnaître, c'est-à-dire, tiens, bon, oui, on va voir l'État se désengager et puis faire appel aux collectivités territoriales et au marché du travail local pour notamment financer ces universités. Hein. Donc il y a une grande vigilance à l'égard de ce mot d'ordre d'autonomie des universités. Hein. C'est pas du tout pour en faire des universités en concurrence les unes avec les autres. Et puis de la même manière, sur la question d'autogestion, il y a cette semblable vigilance, puisque on a rappelé tout à l'heure que le pouvoir avait en tête la participation, l'intéressement, l'association capital-travail. Donc là, précisément, l'autogestion, elle doit être conçue aux yeux de ses promoteurs comme une dissociation du capital et du travail. C'est-à-dire que la véritable autogestion, c'est dans une logique qui nécessite de sortir du capital, des rapports de production fondés sur l'exploitation et fondés sur l'extorsion du profit. Donc là aussi, cette grande prudence est à l'œuvre. C'est, en fait, c'est, là aussi, c'est une dynamique. C'est-à-dire que, bon, bah, on avance des idées, on y réfléchit, on réfléchit à leurs applications. J'ai vu aussi, par exemple, dans des comités de quartier, comment on se met à... Voilà, on se réunit, on se connaissait pas, puis on se retrouve parce qu'on a du temps et parce qu'on a des espaces aussi pour se faire. Les occupations des lieux de travail ou des lieux publics, elles servent aussi à ça, hein. Donc ça produit de l'irruption de pensée et de pratique. Dans des comités de quartier, on se dit bah, « qu'est-ce qui se passerait si on supprimait la publicité ?» Si on supprimait l'idée même de la concurrence comme pivot de l'organisation des sociétés. Si on supprimait, en fait, le marché, tout simplement. Enfin, voilà, comment on pourrait concevoir une société hors du marché ? Voilà, on s'interroge sur l'héritage, sur la propriété, sur la monnaie. Donc, après, voilà, tout ne se passe pas de cette façon partout dans le pays, mais il y a ces initiatives-là. Donc, cette peur aussi de la récupération que vous avez mentionnée, je n'irai pas jusqu'à dire que chez Boltanski et Schiapello, dans leur livre très important, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, 68 aurait fourni des éléments au néolibéralisme, aux nouvelles formes de management. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire comment, en fait, ces pratiques néo-managériales vont agripper certaines choses de 68 qui n'ont rien à voir avec elles, par exemple, qui ne sont pas du tout individualistes, qui sont vraiment collectives et visant à l'émancipation, mais par exemple l'idée, en effet, qu'il faut se débarrasser des petits chefs, des hiérarchies, de la pression au travail. Et donc, ces pratiques néo-managériales vont dire « Ah, mais c'est ça que vous voulez ? Mais oui, mais d'accord, mais vous allez être des entrepreneurs de vous-même, en fait. Vous allez être, c'est vous comme individu qui allez être dans la performance, vous avez raison, on va supprimer tous ces niveaux de la hiérarchie, etc. » Mais c'est pas 68 qui fournit ça clé en main, c'est vraiment des formes de récupération et, enfin, qui font dévier les projets de l'époque.
Oui, bien sûr. En fait, finalement, il y a une récupération du vocabulaire,
Oui.
comme dans Nike, fais ta révolution. Mais évidemment, il n'y a jamais de récupération de la substance de la critique. Et par rapport à justement cette lucidité critique, on peut rappeler, on n'a pas tellement parlé finalement du tout début, hein, des premiers jours de mai, et puis finalement du mouvement du 22 mars, hein, puisque évidemment, 68, alors dans l'histoire canonique, qui a largement exagéré peut-être le rôle de Nanterre, mais disons que dans cette histoire canonique, le mouvement du 22 mars a joué un rôle important. Et dès ce moment du mouvement du 22 mars, il y a déjà une critique faite notamment par les enragés du mot d'ordre d'autonomie des universités en disant mais le problème, c'est l'université elle-même parce qu'elle présuppose une division entre professeurs et étudiants, qu'elle sert à reproduire la société capitaliste, etc. Et c'est des thèmes qu'on va retrouver dans notamment le groupe de réflexion de Sanzié. Avec l'idée qu'il faut dépasser toutes ces oppositions entre intellectuel et manuel, entre travail et loisir. Et aussi, et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de lire votre livre, aussi en essayant de dépasser l'opposition entre la masculinité et la féminité. Et du coup, c'est quelque chose peut-être sur lequel il faudrait revenir. C'est-à-dire qu'en général, on dit bien dans l'histoire du féminisme que 68 a été un moment important, mais finalement, qu'on résume principalement au fait que le groupe FMA, Féminin, Masculin, Avenir, qui est devenu ensuite, de par la radicalisation entraînée par 68, Féminisme, Marxisme, Action, donc un mot d'ordre beaucoup plus radical, dans lequel on trouvait notamment Jacqueline Feldman et Christine Delphi, vont organiser une conférence débat le 6 mai, il me semble, avec un tract qui dit. Étudiant, tu remets en cause les hiérarchies, mais as-tu pensé à remettre en cause les rapports hommes-femmes? Et étudiante, tu participes au mouvement, mais formule et définis tes propres revendications. Mais donc, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur cette question du genre, du féminisme et des femmes en 68?
Je pense qu'on peut dire que 68 n'a pas été un moment féministe, mais qu'il a aidé considérablement au déploiement des féminismes dits de la deuxième vague à partir de 1970 essentiellement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les femmes ont eu un rôle tout à fait considérable en 1968. J'ai essayé de le dire trop rapidement tout à l'heure avec leur participation très intense à la grève, aux piquets de grève, aux occupations, elles organisent des sit-ins, etc. Mais en même temps, il y a un paradoxe de 68 à cet égard, qui est lié à la reconduction des rôles de genre, bien sûr, hein, qui est vraiment multiséculaire. Hein, parce que, par exemple, tous les leaders de 68 sont des hommes, mais non seulement ils sont des hommes, mais ils ne se posent pas du tout cette question d'être des hommes. Il y a une sorte d'invisibilité ou d'impensé, encore plus précisément, un impensé de cette forme de domination masculine incontestée. Et donc c'est vrai que certaines femmes vont en avoir conscience dès ce moment-là, mais elles sont encore assez peu nombreuses, en tout cas, à l'exprimer comme telles et à le faire publiquement. J'ai trouvé quelques traces, mais c'est vrai qu'elles sont assez rares, par exemple à Sciences Po, parce que Sciences Po, Paris, même si c'est une institution de l'élite par excellence du monde étudiant, mais il y a des occupations et un mouvement très important. Et donc il y a des étudiantes en fait qui disent oh ben oui, on fait grève, on participe à la grève, on va commencer d'ailleurs par faire la grève de la vaisselle et des sandwichs, on va rompre le monopole de la confection des sandwichs qui nous est attribué. Donc voilà, avec aussi beaucoup d'humour, le rire de 68 qui est à l'œuvre ici, mais donc certaines femmes vont l'exprimer, mais ressentir aussi cette contradiction. Pourquoi est-ce qu'en fait on met à bas toutes les dominations aussi les clivages hein, que vous évoquiez. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la médecine. On interroge le clivage médecin-patient, etc. Mais pas assez le rapport femme-homme. Et donc cette contradiction à l'œuvre en 68 va être aussi un catalyseur du mouvement qui va suivre avec la prise de conscience qu'il faut aussi pouvoir se réunir entre femmes. D'où ce passage, par exemple, dans le sigle du FMA, féminin, masculin, avenir, à féminisme, marxisme, action, c'est-à-dire que bon, il va y avoir aussi des groupes non mixtes qui se constituent dans le sillage de 68, mais en raison même de ce qui s'est passé en 68, c'est-à-dire, bah oui, nous les femmes, on nous a pas vraiment donné la parole, ou on ne l'a pas suffisamment prise. Les femmes ont été essentiellement des allégories, hein, dans la représentation de 68, qu'on songe aux porte-drapeaux, les femmes comme Caroline de Benderne, cette jeune femme qu'on voit avec un drapeau déployé sur les épaules de Jean-Jacques Lebel, dans des photographies célèbres. Et voilà, les femmes ne sont pas que des allégories, et elles sont là pour prendre la parole aussi. Et donc, la non-mixité, se réunir par moment, c'est pas une finalité la non-mixité, mais se réunir par moment entre femmes, ça permet de prendre confiance en soi, d'aborder aussi des sujets qu'on n'a pas la possibilité d'évoquer quand on est en présence des hommes, et puis on va arrêter de se faire couper la parole par les hommes, etc. Et donc il y a une sorte de capacité d'agir, là, une force qui se déploie dans le sillage de 68, mais aussi en tension avec 68.
Oui, ça c'est effectivement... très intéressant. Il y a pas mal d'exemples qui sont peu connus de ce sexisme finalement des gauchistes, et là ça va jusqu'au situationniste, puisque notamment dans ton chapitre consacré sur ce sujet, tu parles des comics, hein, des bandes dessinées détournées des situationnistes. Effectivement, moi, un aspect qui m'avait toujours frappé et choqué, c'était le fait que à la fois il y avait une critique de la réification, de l'objectification, de la chosification des individus par le capitalisme et notamment par la publicité. Et en même temps, le situationnisme reprenait d'une manière finalement assez peu critique, finalement, ces stéréotypes lorsqu'ils s'appliquaient aux femmes, reconduisant l'objectification du capitalisme et du patriarcat dans ces fameuses bandes dessinées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va traverser aussi les groupes pro-situationniste après dans les années 70, c'est-à-dire la reconduction d'une espèce de culture très machiste où finalement la femme qui est là pour admirer le grand théoricien qui en plus fait bien l'amour, il y a vraiment finalement une division genrée extrêmement forte dans ces représentations situationnistes et qui sont peut-être moins apparentes parce que la question de la sexualité est moins abordée de manière frontale dans les groupes gauchistes, d'extrême gauche, maoïstes, etc., mais qui finalement va se retrouver, notamment matériellement, par la monopolisation masculine de la parole, là où les assemblées de 68 tranchent moins, disons, même s'il y a des femmes qui vont prendre la parole, mais disons que ça tranche moins avec le cours ordinaire des choses, avec le fait que les femmes vont se trouver quand même beaucoup à gérer les cantines, le ravitaillement des usines en grève, les crèches, etc. Contrairement, par exemple, tu donnes l'exemple en Allemagne, où dans les mouvements de contestation, il y a quand même cette conscience d'une nécessité de renverser ce genre de rôle genré qui est plus forte. Et puis aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le témoignage du harcèlement qui a pu exister dans certaines assemblées où on met des mains aux fesses et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de vraiment très intéressant dans ton récit de 68. C'est des choses, effectivement, qui ne sont pas forcément tellement abordées que ça dans les ouvrages sur 68 ou même dans les histoires du féminisme.
Oui, c'est vraiment les sources, les archives là, qui permettent de faire surgir toutes ces contradictions et cette part du sexisme. Et en effet, le choc qu'éprouvent certaines femmes à voir que même dans une université, un théâtre ou une usine occupée, on se retrouve à devoir s'affronter à des gestes déplacés ou des paroles déplacées ou tout simplement cette mise en cause de la présence des femmes qui sont toujours assignées aux mêmes fonctions, en effet, de tâches ménagères. Et c'est vrai qu'on le voit aussi bien du côté du Parti communiste français qui n'hésite pas à sortir une brochure en plein mai 68, c'est un bulletin d'adhésion qui célèbre la fête des mères. Donc, il voit vraiment surtout les femmes comme des mères, comme des ménagères ou des épouses, en fait. Elles sont surtout présentées comme les femmes des grévistes. Donc, ils sont amenés à soutenir leur mari, comme si elles-mêmes, elles n'étaient pas en grève, alors qu'elles le sont très, très largement. Mais c'est vrai aussi des situationnistes, c'est vraiment une butée, quoi. Je sais pas, il y a un obstacle dans la pensée qui est quand même assez fascinant parce que les situationnistes interrogent toutes les modalités même de cette réification et pour autant présentent les corps des femmes qui sont des bombes sexuelles en fait dans ces publicités ou dans ces comics détournés vraiment comme des objets passifs de sexualité et pas du tout comme des corps agissants et politiques. politique.
Oui, et c'est là finalement qu'on voit la limite finalement de cette révolution sexuelle dont on a beaucoup parlé à propos de 68. C'est-à-dire que finalement, ça restait une révolution sexuelle. Ça le sera moins dans les années suivantes, mais une révolution sexuelle quand même largement encore androcentrée, centrée sur la sexualité masculine. Et où finalement, une grande partie des codes et de l'imaginaire sexuel dominant patriarcal était finalement reconduit avec simplement une idée de la critique de la monogamie et de la famille, mais qui n'allait pas jusqu'à une remise en cause de la domination masculine dans les rapports sexuels, une prise en compte du désir des femmes, etc. etc.
Oui, d'ailleurs, c'est encore un peu trop péremptoire de parler de révolution sexuelle pour 68 même, d'ailleurs, hein, parce que la question est assez peu posée. Hein, c'est un autre des sujets impensés de 68, parce qu'à part quelques groupes, comme justement le groupe de Censier, qui d'ailleurs s'appelle, c'est un peu ironique aujourd'hui, mais ça s'appelle Nous sommes en marche, un groupe qui s'appelle Nous sommes en marche, donc essentiellement influencé par les situationnistes, bon, qui pose justement la question de la révolution sexuelle, qui ne doit pas être une révolution de l'érotisme sur papier glacé, qui serait à nouveau un marché en fait, hein, qui conviendrait très bien au capitalisme, mais il n'y a pas véritablement cet enjeu qui est posé, donc on verra ça seulement dans les années qui vont suivre.
Et alors justement, pour parler des années qui vont suivre, enfin plutôt principalement de l'année qui va suivre, qu'est-ce qu'on peut dire, et ça forme l'épilogue de ton livre, qu'est-ce qu'on peut dire sur finalement le reflux un petit peu de 68, on en a déjà donné un peu les ingrédients, notamment finalement le fait que les principales forces politiques de gauche vont se rallier finalement à l'idée que tout va se déterminer dans les élections, qu'en attendant il faut reprendre le travail. Comment est-ce que finalement 68 va finir, avant peut-être d'aborder la question de comment est-ce que 68 a quand même perduré au cours des années suivantes Qu'est-ce qu'elle constitue comme héritage aujourd'hui, comme référence, comment est-ce qu'elle a transformé la vie des gens qui l'ont vécu?
Il y a un clivage d'interprétation qui n'est pas seulement un clivage a posteriori, hein, mais dès l'événement lui-même, dès la clôture de l'événement. C'est-à-dire que il y a le clivage dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment entre le Parti communiste d'une part et les groupes, alors que moi je n'aimerais pas trop appeler gauchiste, parce qu'en fait gauchisme c'est déjà dans une certaine mesure un terme disqualifiant, enfin, et c'est le Parti communiste qui va parler essentiellement des gauchistes, mais après certains vont pouvoir éventuellement le reprendre à leur compte, mais bref, des organisations en fait qui se réclament de la révolution, hein. Ce clivage-là qu'on retrouve aussi dans une autre mesure, hein, c'est pas tout à fait le même, mais entre la CGT et la CFDT, c'est un clivage d'interprétation sur est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu en fait. Et bon, par exemple pour la CGT, le Parti communiste, c'est quand même une victoire. Il y a les acquis nés de Grenelle, l'augmentation massive du SMIG, des salaires, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Mais pour beaucoup, non, c'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout à la hauteur de la grève générale, des occupations, du blocage de tout le pays. Donc il y a aussi beaucoup d'amertume, de ressentiment, de difficulté à reprendre le travail, comme on le voit de manière très poignante et magnifique dans le petit film des étudiants de l'IDEC qui s'appelle « La reprise du travail aux usines Vondère ». On voit cette jeune femme, une ouvrière de ces usines à Saint-Ouen, on saura plus tard qu'elle s'appelle Jocelyne, mais on n'en sait pas davantage, qui crie et qui pleure, et qui dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle », et qui dit qu'on est dégueulasse dans cette tôle, enfin au sens où on est sale, il y a des produits extrêmement toxiques, c'est voilà. Et cette femme, pour moi, est vraiment l'incarnation de 68 aussi dans ses tensions, et justement dans la difficulté aussi à accepter qu'on puisse reprendre dans de telles conditions. Finalement, on reprend aussi, on se remet sur les rails de la politique politicienne, de la voie électorale, ce qui n'est vraiment pas du goût de tout le monde. Donc il y a une interrogation aussi sur les limites des acquis de Grenelle et notamment les limites de ces augmentations de salaire, parce que même si elles sont considérables, en particulier pour le SMIG, hein, parce que sinon les autres augmentations de salaire, finalement, elles étaient prévues, hein, donc il y avait juste une accélération de ce qui était prévu, mais c'est pas l'essentiel, d'autant que les journées de grève ne sont pas payées et que dans bien des endroits, ça j'essaie de le montrer aussi dans l'épilogue à partir des sources des entreprises, hein, des archives du monde du travail entre autres, il y a dans bien des endroits, le patronat exige des heures supplémentaires non payés pour rattraper les journées supposément perdues par la grève. Il faut vraiment payer la grève. Le patronat essaie de faire payer la grève dans tous les sens du terme, et notamment en accélérant encore les cadences. Hein. C'est ça le paradoxe de 68, c'est que finalement, beaucoup protesté contre l'intensité des cadences, mais elles vont encore s'aiguiser après mai-juin parce que le patronat est à certains endroits vraiment implacable sur ces questions, donc non-paiement des jours de grève, et y compris sur l'augmentation des salaires. Beaucoup se disent mais l'inflation va balayer quand même tout ça, et c'est ce qu'on voit assez rapidement dès la fin de l'été 68 avec des augmentations tarifaires un peu partout. Bon. Donc il y a vraiment ce clivage-là, et parfois le sentiment qu'il ne faut pas en rester là. Mais au-delà, ce qui est certain, c'est que quand même le rapport de force s'est modifié. Et on va le voir dans les années suivantes. C'est-à-dire que même si, voilà, il y a les élections, et puis finalement c'est une victoire des gaullistes. Alors, une victoire qu'il s'agit aussi de relativiser dans ses résultats, parce qu'on a beaucoup parlé d'une victoire écrasante de la droite. C'est faux, parce que c'est une victoire en termes de nombre de sièges. En effet, il y a plus de 80% des sièges qui reviennent à la droite, ou aux droites dans leur pluralité. Mais en fait, sortie des urnes en pourcentage des voix, c'est à peine 50% en fait. Donc ça, c'est aussi la question du suffrage, du mode de scrutin uninominal, avec aussi des découpages de circonscriptions qui permettent des petits arrangements de ce point de vue. Mais il est certain que c'est aussi une défaite pour les gauches, et en particulier pour le Parti communiste français, qui perd pas moins de 600 000 voix entre 67 et 68, hein, les deux les élections législatives. Mais au-delà, il y a quand même un rapport de force qui se modifie, parce que dans les entreprises qui ont fait grève, à certains endroits, le patronat n'en mène pas large, qu'il va devoir aussi faire d'autres concessions, d'autres augmentations de salaire, des diminutions du temps de travail, des réaménagements aussi des cadences. C'est ça qu'on va voir tout au long de la décennie qui suit. Aussi parce que 68 n'est pas refermé, au sens où il y a toujours de la conflictualité sociale. Ça a donné des forces, ça a donné du courage, ça a donné de l'énergie, le fait de retrouver de la dignité dans les grèves, le fait de relever la tête. Donc ça a donné confiance aussi. Et dès lors, c'est vrai que toutes les années qui vont suivre, jusqu'à plusieurs moments de basculement, aussi bien la crise de 73-74 que la dernière grande grève de la période 79, notamment dans le secteur de la sidérurgie, on est quand même dans une décennie de très forte conflictualité liée à 68 et qui veut aussi en prolonger l'héritage.
Oui, c'est sûr que... On voit que jusqu'à 79-80, 80 formant d'une certaine manière la liquidation institutionnelle de 68, finalement, par la récupération de son mot d'ordre, notamment changer la vie, qui est complètement vidé de son contenu, et qui va amener sur la grande décennie un peu de dépression, entre guillemets, des luttes sociales des années 80. Malgré tout, 68 a profondément marqué la société française des années 70, qui a été une société traversée de nombreux conflits, de mobilisations féministes, homosexuelles, ouvrières, immigrées, etc., dont on a parlé par ailleurs dans d'autres émissions. Et en même temps, jusqu'à aujourd'hui, même si évidemment la dynamique s'est arrêtée, disons matériellement dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui, ça a eu des impacts, à la fois sur le plan des trajectoires individuelles, comme l'a montré par exemple Julie Pagis dans son ouvrage Un pavé dans leur histoire. Évidemment, 68, c'est un moment de transformation des subjectivités, et les gens qui ont été marqués par 68 vont... d'une certaine manière, même s'ils vont devoir vivre dans une société capitaliste en transformation, mais pas forcément dans le bon sens, pas forcément dans un sens révolutionnaire, et bien malgré tout, ils vont chercher, ça va influencer leur vie, la manière de conduire leur existence. Et puis d'autre part, il y a aussi le fait que 68 reste aujourd'hui peut-être la plus grande référence historique en termes d'histoire des luttes, parce que 36 ou la Commune, ça paraît très loin et ça paraît une société qui n'a rien à voir avec la nôtre, la Révolution française encore moins, et les mouvements plus récents se sont soldés beaucoup par des défaites ou par des victoires très relatives comme en 95. Donc est-ce qu'on peut simplement du coup en conclusion revenir un peu sur ces deux aspects, la transformation subjective qui perdure au-delà du moment 68, notamment qui transparaît dans tous les entretiens que les historiens et les historiennes ont pu mener avec les protagonistes de 68, notamment les protagonistes ordinaires, ceux qui n'ont pas retourné leur veste, comme Daniel Cohn-Bendit, qui n'ont pas fait de leur ancien statut de 68-art un moyen de valorisation politique dans le, dans le champ bourgeois notamment, la question de cette référence historique toujours très importante aujourd'hui.
L'ouvrage de Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire, est tout à fait essentiel parce que donc c'est un ouvrage de sociologie politique. À partir d'un travail de terrain, elle permet de montrer que, contrairement à cette représentation absolument écrasante, absolument dénigrante de 68, qui s'appuie en particulier sur ces figures politiques et médiatiques, des gens très installés, des gens au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir politique ou du pouvoir des médias notamment, dont Cohn-Bendit est en effet l'incarnation principale, mais il y en aurait d'autres à citer, pas forcément la peine de le faire, mais contrairement à cette image, eh bien, la plupart des protagonistes de la contestation de 68 et de la grève générale ont gardé un attachement à ces valeurs, avec des déplacements évidemment, avec des manières de reconvertir leurs engagements en termes professionnels, en termes associatifs, en termes syndicaux ou politiques, mais sont restés fidèles en fait à ces convictions-là et n'ont en effet pas renié ce passé, mais ont continué à le nourrir au présent avec des manières extrêmement diverses de le faire. Ça, c'est pour le premier point. Puis le deuxième point, je pense qu'on peut parler finalement de révolution anthropologique née de 68. C'est vrai que 68 n'a pas été une révolution, même si beaucoup l'espéraient à cette époque. L'imaginaire révolutionnaire a été véritablement réactivé en 68. Bon, il n'y a pas eu de révolution institutionnelle, politique, il n'y a pas eu de révolution économique, on le saurait, on est toujours bel et bien dans le capitalisme, dans une forme d'ailleurs d'apogée du capitalisme avec dans sa phase néolibérale. Et pourtant, c'est quand même une révolution anthropologique au sens où tellement de choses ont changé par et grâce à 68 qu'on en est finalement toutes et tous les héritières et les héritiers. Je pense qu'il y a une dette, alors c'est une dette qui n'est pas à prendre comme un fardeau, hein, mais c'est vraiment une dette au sens où, bien sûr, que la manière dont on agit, dont on parle, y compris dont nos corps, nos sexualités, nos relations sociales, les relations humaines ont quand même été très largement marquées par l'effet de 68, par quand même cet effet de libération et d'émancipation, notamment parce que ces luttes ont continué, même si elles sont toujours à remettre sur le métier, mais elles ont été essentielles dans la prise de conscience que rien ne pouvait plus être tout à fait comme avant, et c'est le cas. C'est-à-dire que désormais, dans bien des domaines, la question du pouvoir est interrogée, la question des hiérarchies, la question de l'autorité, et finalement, on est dans une période c'est intéressante à cet égard, parce que finalement, il y a une double référence qui est utilisée aujourd'hui, c'est Révolution française et 68, qui pose des questions du pouvoir, qui pose la question d'une autre forme de démocratie, qui interroge aussi la supposée représentativité des représentants, qui ne semble plus représenter véritablement les gens. Donc cette conscience-là, finalement, c'est une sorte de réactivation de 68.
Oui, c'est intéressant de finir là-dessus, sur le fait que finalement, 68 a ouvert énormément de possibles, a énormément de remises en cause aussi de l'ordre social. On en a parlé de pas mal, notamment de l'ordre social genré, par exemple, même s'il en a été que le prélude. Et donc, c'est une raison de plus pour se replonger, continuer de se replonger dans cet événement, notamment du coup à travers votre ouvrage, donc 1968, De grand soir en petit matin, paru aux éditions du Seuil en 2018. Et donc on espère que nos auditeurs et nos auditrices qui auront survécu jusqu'au bout de cette longue et passionnante émission l'auront apprécié et qu'ils et elles y trouveront des registres pour penser l'actualité et pour militer et pour aussi viser un horizon émancipateur tel que celui que 68 avait ouvert. Donc merci Ludivine Montigny.
Merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut. des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.